poule aux vanilles.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux poules vanilles.
Deux poules vanilles !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane. Bienvenue dans Deux boules vanilles, le rendez-vous estival de Canal B, tous les jours de l'été à 17h et en rediffusion le lendemain matin à 9h. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'interview de Déborah Gay, enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse Jean Jaurès, que je recevais dans l'émission Les Héroïnes en avril dernier. Déborah Gay s'intéresse notamment aux questions de genre dans les médias. Elle a été journaliste aussi et maintenant autrice de Radio non féminin, monde masculin, ouvrage paru aux presses universitaires du Midi, dans lequel elle étudie les phénomènes qui font de la radio le miroir de notre société patriarcale. Comment on a invisibilisé les femmes avec des prétextes techniques fallacieux? Comment, au moment du Covid, les plateaux radio et les personnes interviewées n'ont été que des hommes, réduisant la place des femmes et de leur voix à néant? Comment il faut que les femmes empruntent les codes masculins pour avoir un temps de parole? Cette question des femmes en radio, on l'abordera aussi en fin d'émission avec deux voix emblématiques de Canal B, Steve et Nini, qui raconteront leur début à cette même antenne dans les années 90, comment elles ont dû notamment se comporter comme des mecs pour prendre leur place. Bonjour Déborah Gay.
Bonjour Morgane.
Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, où vous êtes actuellement pendant que je suis à Rennes. Et vos recherches, elles portent notamment sur la production des industries culturelles au prisme du genre, notamment sur les questions de mansplaining et de manterrupting à la radio. Vous avez publié l'hiver dernier Radio non féminin, monde masculin, aux presses universitaires du Midi dans la collection En tout genre, car la radio, vous le dites, est le média le plus inégalitaire envers les femmes. La radio est un microcosme, un média à l'image de notre société qui reproduit les mécanismes du patriarcat. Il y a une hiérarchie à respecter, comme partout dans notre société. Vous dites que c'est une caisse de résonance aux stéréotypes présents donc dans notre société. Vous parlez d'une domination structurelle et de rapports binaires, antagonistes et hiérarchisés. On va le décrypter. Tout d'abord, vous rappelez que tout au long de votre ouvrage, qu'il y a en fait très peu d'études en France sur la radio et encore moins sur les voix et la représentation des femmes. Et je voulais vous demander tout d'abord, quelle a été votre méthodologie?
Alors, tout d'abord, la première méthodologie, effectivement, ça a été, de sélectionner des émissions radiophoniques. Au sein du laboratoire où je travaille, et on travaillait avec un ANR, donc un projet financé par la recherche française, sur la question de est-ce qu'on pouvait prouver le mansplaining, manterrupting. Donc en gros, on s'est dit, on a deux questions, la radio et le mansplaining, manterrupting, donc autant essayer de les faire de concert et de voir si dans des endroits où on n'a que de la parole, où on n'entend que de la parole, on peut voir s'il y a ces interruptions et ces interactions. Et en fait, donc le premier élément méthodologique, c'était de voir toutes les études qui existent sur mansplaining, manterrupting, parce que c'est tout sauf une question nouvelle. Il y a des études, l'étude la plus ancienne, si je me rappelle bien, c'est 75.
Ça date un peu.
Ça date, et surtout, en fait, on se rend compte que il y a des mots militants qui sont nés notamment aux États-Unis pendant les premiers débats Clinton et Trump à l'époque, mais qui en fait sont là depuis extrêmement longtemps en termes de questions. Et donc en fait après la question de la radio s'est un peu imposée comme ça. Aussi, le choix a été fait de pas travailler sur le journalisme radio qui est pour le coup plus documenté. Mais c'est pas les moments où on entend plus les gens à la radio, puisque à part France Info et quelques radios comme ça, tout le temps de radio, il n'est pas donné à l'information. Donc c'est des endroits qui sont très peu étudiés. qui sont ces émissions radiophoniques. Alors, on a quelques éléments sur les documentaires, la fiction, mais on voit que la majorité du temps à la radio est très peu documentée. Et donc, il a fallu d'abord choisir des émissions. On a décidé, avec le groupe de recherche, de travailler majoritairement sur des émissions qui étaient grand public, c'est-à-dire pas des radios associatives, plutôt du radio national, et après de choisir un peu des grandes thématiques, c'est-à-dire des émissions culinaires, des émissions sportives et des émissions de libre antenne. Et après, on a encore ouvert à l'économique et à la seule matinale de France à l'époque où il y avait un duo homme-femme qui était la matinale de France Inter. Et donc, on a travaillé sur l'année 2018 parce qu'on voulait travailler avant le Covid. Il a beaucoup changé aussi dans ces éléments-là.
Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Au total, vous avez analysé près de 190 heures de radio et ça s'est fait donc post-MeToo, c'est aussi important, mais pré-Covid et on le verra qu'il s'est passé quelque chose après la pandémie. Et donc, vous l'avez dit, hors journalisme, et là, le constat, il est sans appel. Les femmes n'ont que 36% de temps de parole à la radio et elles ne sont pas à la tête des émissions, elles ne sont pas responsables d'émissions. Vous évoquiez le duo Salamé de Morant, c'est intéressant ce que vous dites là-dessus, justement sur ce duo où elle ne lui donne jamais la parole, mais distribue la parole dans un rôle sans doute inconscient de domination. Alors les femmes, elles sont chroniqueuses, c'est-à-dire que leur temps d'antenne est chronométré et les sujets qu'elles abordent, ben ça on y reviendra aussi, sont cantonnés à certains domaines comme l'éducation, la parentalité, la décoration et la majorité des invités aussi, il faut le dire, ce sont des hommes, que ça soit les experts économiques, les politiques. Mais vous commencez votre ouvrage, et j'aimerais bien qu'on y revienne quelques instants, en citant une grande femme de radio, c'est Chris. Vous pouvez, cette fameuse fipette, nous dire deux mots sur Chris qui a marqué sans doute certaines années de votre jeunesse.
Chris, en fait, moi, je l'ai pas du tout connue comme fipette. Je l'ai vraiment connue quand elle avait Chris Crumble. Donc, c'était une émission. Je devais être à première ou deuxième année de fac et j'avais pas la télé. Et donc, je passais mon temps sur la radio. Et en fait, c'était une voix que j'aimais beaucoup entendre. Elle avait une tonalité extrêmement propre à elle et une grande bienveillance. Elle avait des invités tout le temps. Et en fait, ça a été l'année où j'ai plus écouté Chris. Ça a été la dernière année de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, Chris, tout le monde le savait, elle l'avait elle-même dit, avait un cancer, et elle alternait ses présentations à la radio, quelqu'un d'autre la remplaçait, je crois que c'était Marie-Pierre Planchon, et on savait que c'était les moments où elle avait ses chimiothérapies, et la dernière émission de la saison, Marie-Pierre Planchon présentait l'émission, donc on pensait tous et toutes que Chris était en chimiothérapie, et elle invitait Chris. Et en fait, ça a été un moment de radio assez incroyable pour ceux et celles qui avaient suivi toute l'émission, puisqu'on a tout de suite, on s'est rendu compte que si Chris était l'invitée, c'est qu'elle ne serait pas là à la rentrée et elle est décédée, je crois, 2 ou 3 mois après.
Bon, alors moi, je m'appelle Chris. Dans la vie, je fais de la radio. Et je dis dans la vie parce que c'est vraiment dans la vie, quoi. C'est partout dans ma vie. Ça s'appelle des émissions de radio.
Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne.
Ça va mal sur les routes, alors FIP veut vous remonter le moral. La nuit sera assez douce, demain il fera meilleur qu'aujourd'hui, jusqu'à 22 degrés à Paris, et miracle, il ne pleuvra pas.
Donc une émotion radiophonique forte pour ouvrir votre livre et puis vous partez aussi d'une expérience vécue qui moi m'a fait sourire si je puis dire, c'est celle de s'apercevoir que quand on est entre femmes, ben que justement on est entre femmes. Ce jour-là vous êtes à la radio, vous êtes en stage, il n'y a que des femmes et vous et vos collègues vous le remarquez. À l'inverse, un plateau exclusivement masculin ne pose pas de problème. Est-ce que seules les féministes ou les personnes sensibilisées à l'égalité sont choqués d'un plateau TV, radio ou d'une une de journaux exclusivement masculine où ça commence un peu à bouger dans la société de voir que des hommes en plateau, c'est choquant et certains non-féministes s'en offusquent.
Alors, à l'heure actuelle, il y a quand même eu une prise de conscience hein, assez importante, mais plus pour tout ce qui est, disons, média lié au visuel. C'est-à-dire, ces différences-là se voient énormément. La télé est un média qui est plutôt très, très paritaire. En fait, on ne va pas parler en termes de hiérarchie, etc., mais c'est très paritaire en termes de représentation homme-femme. Contrairement à la radio, justement, et l'une des pistes possibles à explorer et à définir, c'est que finalement, on nous a habitués à voir. Il y a eu des grandes actions de féministes, de médias, d'associations comme La Barbe, qui ont dénoncé en fait le fait qu'il y ait que des hommes sur un plateau. Mais pour l'instant, on n'a pas éduqué notre écoute à percevoir que finalement, ce ne sont que des voix d'hommes que l'on entend depuis une heure dans une émission radiophonique. Donc, à la radio, c'est beaucoup plus rare d'entendre. Après, je vous avoue que je vous donne ce point de vue plutôt de quelqu'un qui écoute beaucoup la radio, d'entendre justement des dénonciations de plateaux exclusivement masculins.
Vous remontez aux années 1920 parce qu'en fait, ça commence là, la disparition des voix des femmes à la radio. C'est assez étonnant ce qui est dit à l'époque techniquement. En fait, techniquement, elles ne sont pas audibles. Elles ne sont pas audibles parce que leurs voix sont trop aiguës et ça ne passe pas dans les micros et les auditrices pourraient éventuellement abîmer leurs oreilles. C'est en substance ce qui est un peu dit en 1920, dans les années 20.
En fait, ce qui est intéressant, c'est pour le coup, c'est notamment dans toute l'histoire de la radio. L'histoire de la radio est un endroit où il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes avant les années 20-30, qui sont les années de crise économique. Et donc, quand les médias commencent, la radio commence à se professionnaliser et à attirer de l'argent, des industriels, etc., on se rend compte que les femmes vont disparaître presque complètement de tous les postes d'antenne. Donc, l'un des arguments qui va être donné, notamment, c'est, je crois, les micros Bell, qui vont dire « nos micros ne sont pas faits pour des voix de femmes ». Il y a eu toutes des recherches plus récentes, notamment Karine Masterson en Allemagne, qui a bien prouvé que c'était des discours. On faisait des discours sur les dispositifs en disant « les micros ne sont pas adoptés pour les aigus, mais bizarrement, pour les chanteuses, ça marchait très bien ». Donc en fait, il y avait vraiment cette espèce d'usage un peu faux de dire soit les femmes que l'on entendait jusqu'avant, donc la radio étant un média assez ancien, soit les femmes, personne n'aimait écouter les femmes, donc les auditeurs, auditrices préfèrent écouter un homme, soit tout simplement les micros ne marchent pas. Donc on disait toujours que c'était pas du sexisme, mais c'est pas nous, mais par contre on veut plus de femmes à la radio.
Ouais, elles peuvent chanter, mais surtout pas prendre la parole. C'est un peu ce qui s'est passé de façon assez violente. En tout cas, c'est ce que je pense à l'automne dernier dans l'hémicycle, lorsque le député Verny s'adresse à Sandrine Rousseau en lui demandant d'éviter de crier. Enfin, c'est ce qu'ils sont ressentis en disant qu'elle lui casse les oreilles parce que sa voix est trop aiguë.
Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro?
Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable.
Justement, la voix des femmes, en fait, on exige des voix des femmes qu'elles soient douces, sensibles, enveloppantes. On leur demande, en fait, que leur voix corresponde au rôle qu'on leur a assigné dans la société.
Surtout dans un média comme la radio, où en fait, on pense peu aux qu'il y a des auditrices, mais qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Donc, c'est-à-dire que le matin, il fallait des voix comme les fipettes, c'est-à-dire des voix très joyeuses, légères, enfantines, aérées, qui accompagnent le travailleur sur le chemin de son travail. Et le soir, au contraire, des voix extrêmement rauques, comme Macha Béranger, etc., qui permettent en fait d'être beaucoup plus dans la séduction pour un auditeur qui serait un travailleur du soir. Donc on a vraiment une construction des voix des femmes pour accompagner un auditeur masculin, soit le matin avec joie et bonheur, soit le soir avec tout ce qu'il y a comme imaginaire lié à la nuit.
Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question suivante, mais on se permet de juger la voix d'une femme trop aiguë, trop nasillarde. Est-ce que vous avez, à l'inverse, des exemples de critiques qui auraient été faites à une voix d'homme ou à des voix d'hommes? Est-ce que ça existe?
Alors, ça existe dans des cas extrêmement précis, c'est-à-dire quand les voix semblent trop aiguës. Et notamment se rapproche de certains éléments féminins. On sait que Guillaume Gallienne a été très... On a beaucoup parlé de sa voix, qui en plus était, entre guillemets, en déficit d'une certaine masculinité, donc toujours en plus sujet à une question de est-il hétérosexuel ou non, etc. Donc Guillaume Gallienne était un exemple assez flagrant de voix de radio qui a été très jugée, mais parce qu'il était... Finalement, il dérogeait à tous les codes liées aux voix masculines.
Oui, et autant une femme peut prendre les codes masculins, autant quand un homme emprunte au code féminin, là, ça ne passe plus.
Oui, bon, ça, je l'ai déjà raconté dans Les Garçons Guillaume à table. C'est vrai que ne répondant pas à des critères de virilité enfant, j'ai été assez vite étiqueté. Et donc, et puis surtout, c'est que j'avais l'impression que c'était usurpé quelque chose si je m'identifiais aux hommes. Donc, j'ai puisé ma force et mon courage plutôt chez les femmes.
Et justement, la voix, elle révèle immédiatement à qui on a affaire, dans quasi la totalité des cas, soit un homme, soit une femme. En presse écrite ou sur le web, on ne sait pas forcément qui écrit, qui a écrit tel ou tel article, papier. Il est donc peut-être plus simple. Là, je sais que vous avez fait votre enquête, votre étude hors journalisme, mais je me demandais s'il n'était pas plus simple pour les femmes journalistes de prendre leur place dans la presse écrite qu'en radio.
Si, comme je vous le dis, vraiment, le média plus inégalitaire, c'est la radio, et ça, c'est des enquêtes qu'on fait avec des collègues du monde entier, qui sont tous les 5 ans, qui s'appellent le Global Media Monitoring Project, où en gros, on va dans, je crois, plus de 120 pays, on va le même jour voir la place des femmes dans les médias, et dans les émissions, donc radio, télé, presse écrite. Donc on sait que pour le coup la radio est le plus bas, la télé c'est plutôt assez paritaire, et la presse écrite en soi n'est pas aussi problématique, on va dire. Alors ce qui est difficile à savoir, c'est est-ce que c'est parce que c'est le nom qui est choisi, ou est-ce que c'est parce que la voix est un tel vecteur d'identité qu'en fait on est beaucoup plus perçu comme telle ou telle personne, telle ou telle journaliste. Donc, c'est moi qui fais ce type de reportage et je deviens l'incarnation de ce reportage par la voix. En fait, c'est un peu difficile de savoir sans travailler sur les autres médias, mais la radio est de façon internationale, c'est-à-dire même dans les pays anglo-saxons, etc., est un média qui, de fait, s'entend au masculin.
Pause musicale dans Debout le Vanille sur Canal B, on écoute les amoureux joyeux d'Ellie James, accompagnés de la chorale rennaise Louve.
Les amoureux joyeux, ceux qu'on aime regarder, rêveurs, rêveuses, ils ont l'air heureux ceux-là. On sait pour sûr que ce n'est pas toujours facile d'être des amoureux joyeux. Ce n'est pas toujours facile d'être des amoureux joyeux. Marathon, une course de fou, non, une randonnée, long, la randonnée, celle qui demande un peu d'effort, de s'attendre, de céder, de se laisser, de se rêveurs, rêveuses, ils ont joyeux.
Les amoureux joyeux d'Ellie James et la chorale rennaise Louvre sur Canal B dans Deux boules vanille. On retrouve l'enseignante chercheuse toulousaine Déborah Gay, autrice de Radio, nom féminin, monde masculin. On parlait de la présence, de la voix, du temps de parole, mais il y a aussi les sujets. Et là, les sujets dits nobles, économie, politique, ce que vous appelez aussi hard news, sont réservés aux voix graves, dites plus sérieuses, donc les voix d'hommes. Et j'apprends, moi, avec votre livre, que les femmes s'entraînent à avoir une voix plus grave pour être plus pris au sérieux. Est-ce que c'est conscient ou inconscient chez elles ?
C'est fait dans les écoles de journalisme, à minima. On appelle ça poser sa voix. Et souvent, poser sa voix, c'est parler de façon plus grave. Alors, ça va pas être, on va pas vous dire forcément parler de façon plus grave, mais ça va être tourné de telle manière que de toute façon. Alors, j'avoue, les écoles de journalisme, maintenant, ça fait 10 ans, hein, plus de 10 ans que j'en suis sortie. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, va lisser les voix, donner un ton, donner une façon de parler qui est beaucoup plus grave pour certaines femmes, mais qui lisse aussi d'autres éléments, type les accents. Un journaliste qui a un accent du sud-ouest, ou un accent, si le français n'est pas sa langue maternelle, sera très fortement jugé. Donc, de fait, c'est des éléments qui vont être lissés à minima dans les écoles de journalisme. Et puis après, il faut aussi trouver du travail. Donc, si on a une voix très aiguë, ça sera beaucoup plus difficile.
Alors ça, c'était peut-être l'époque avant Jean Castex et puis avant la sortie du livre de l'universitaire rennais. On est très fiers ici à Rennes d'avoir Philippe Blanchet et sa glottophobie. Heureusement.
Hors sport, il y a des journalistes de Hard News qui ont un accent.
Oui, ça passait pas. Mais Jean-Michel Apathy
qui a fait pas mal de plateaux, mais c'est un peu notre exception.
Ouais, c'est ça. Sinon, il faut s'appeler Moscato et faire du sport, parler de sport à la radio. Alors on l'a dit, hein, la radio est le miroir en fait de notre société patriarcale. Donc on y pratique le mansplaining et le manterrupting. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux concepts?
Alors, le manterrupting, c'est le fait que dans des conversations entre hommes et femmes, un homme va interrompre une femme parce qu'elle est une femme, c'est-à-dire qu'il va plus facilement interrompre une femme que s'il avait discuté avec un homme. Et le mansplaining, c'est le fait d'expliquer à une femme le produit de ses connaissances à elle. C'est par exemple quelqu'un qui va vous expliquer le sujet de votre chronique, le sujet de votre émission, alors même que vous êtes en train de le faire. Il y a eu des exemples absolument très drôles et très célèbres dans une émission qui s'appelait Le Nouveau Rendez-vous NRVFI, pardon, sur France Inter, où en pleine émission, Alice Antome explique ce qu'est le mansplaining et elle est interrompue par un autre animateur qui lui dit que de toute façon, si les femmes n'arrivent pas à parler, c'est qu'elles ne connaissent pas le pouvoir lié au verbe, alors même qu'elle est en train d'expliquer c'est quoi le mansplaining. Donc c'est quelque chose de presque inconscient, mais qui est extrêmement flagrant.
Ouais, vous donnez aussi un exemple de l'émission de France Inter, On va déguster, où on a une vigneronne journaliste, Sylvie Augereau, et deux autres vigneronnes qui échangent en n'étant pas d'accord. Et puis là, il y a Antoine Gerbel qui arrive, qui les interrompt et qui donne son avis à lui, comme s'il allait mettre tout le monde d'accord, et notamment ces trois vigneronnes. C'est assez drôle de lire ça si on a envie de prendre un peu de recul sur ces phénomènes. Les voix des femmes sont rares, hein, on le dit là depuis le début de l'émission, elles ne sont jamais en lead et si elles doivent l'être, il faut qu'elles collent à une voix masculine ou qu'elles soient en duo. Elles doivent pas être trop aiguës, ces voix, mais elles ne doivent pas non plus être trop vieilles. Elles sont par ailleurs, donc on l'a vu, interrompu, et vous dites, et ça m'a un peu glacé, mais je comprends parfaitement l'expression, vous dites que c'est un bruit de fond, les voix des femmes en radio. Vous parlez de ségrégation verticale et de ségrégation horizontale. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux notions?
Alors, la question de ségrégation verticale, c'est vraiment toute la question, disons, de ce qu'on appelle aussi le patriarcat, c'est-à-dire que En gros, les postes à responsabilité dans ces émissions radiophoniques sont tenus par des hommes. Ça va être des hommes qui vont être producteurs, réalisateurs, présentateurs principaux des émissions. Et les femmes, elles, resteront, comme on l'a dit, chroniqueuses dans des postes beaucoup moindres, beaucoup moins importants, beaucoup, en tout cas, avec un temps d'antenne qui est plus contraint. Ségrégation horizontale, ça veut dire que certains domaines, et c'est souvent les domaines où il va y avoir le moins d'écoute, le moins d'horaires d'écoute, ou des sujets qui semblent attirer moins de monde, il y a une majorité de femmes. Donc il y a des domaines perçus comme féminins, car potentiellement moins intéressants. Ça peut évoluer avec le temps. On sait que pendant très longtemps, les questions d'environnement étaient des questions féminines, et que quand l'environnement est devenu une question importante géopolitique, il y a eu beaucoup plus d'hommes d'un coup sur le sujet.
Ça me fait penser à cette réflexion. Alors bien sûr, j'ai oublié le nom de celui qui l'a prononcé. Il me semble que c'était un homme politique qui disait que du fait de la féminisation des métiers de la médecine, voilà, des médecins qui étaient de plus en plus des cardiologues, alors pas tant chez les cardiologues, mais chez les pédiatres, les gynécologues, de plus en plus de femmes arrivaient dans ces professions. Voilà, ça s'était complètement dégradé, comme quand l'éducation nationale est devenue à 90% féminine. C'est un peu vraiment à cette image-là, on peut concrètement voir que la radio est vraiment le miroir de notre société. Alors une question qui me concerne un peu plus, j'ai été un peu marquée parce que moi je suis née dans les années 70. Est-ce qu'on peut être vieille et crédible à la radio?
Déjà, si vous arrivez à être vieille et à rester à la radio, félicitations.
Merci.
On sait que c'est un média qui pardonne assez peu aux femmes de vieillir, pas à cause du fait de l'âge, de la voix ou du ton, mais de façon extrêmement claire, c'est un média qui pardonne très peu les ruptures de carrière liées aux faits familiaux, c'est-à-dire au fait d'être enceinte. Et c'est vraiment quelque chose, finalement, que beaucoup de femmes ont en commun. Quand elles décident d'être mère à la radio, c'est difficile de revenir ensuite à l'antenne après une interruption de carrière. Donc souvent, elles vont revenir en ayant des postes moindres, des postes à responsabilité moindres, et être poussées un peu vers d'autres éléments, du desk, etc. Donc en soi, pouvoir vieillir à la radio chez certaines femmes, c'est très compliqué. Et c'est plutôt lié, disons, à l'heure actuelle dans la société française. La majorité des personnes qui prennent des congés pour leurs enfants sont encore les mères. Et là-dessus, c'est très discriminant. Ce qu'il y a très peu dans d'autres médias. C'est-à-dire ce qu'on se permet à la radio, on ne se le permet pas en presse écrite et on ne te le permet pas à la télévision. Et alors qu'en plus, c'est des médias où on sait que pour savoir parler à la radio, il faut avoir un peu d'expérience. Il faut savoir où parler, comment, connaître les règles implicites, pas avoir peur de s'exprimer face à un micro. Et ça, c'est des expériences que plus on vieillit, plus on en a.
Mais
donc,
oui.
Il y a aussi cet élément où on se rend compte que, à l'heure actuelle encore, la majorité des animatrices, quand elles sont dans une émission avec des hommes, les hommes sont plus vieux qu'elles.
Et vous prenez cet exemple, alors c'est pas forcément ma tasse de thé, mais l'exemple est vraiment parlant, celui de Léa Salamé, à qui on propose en fait la matinale. Et elle vient d'accoucher et donc elle va refuser parce que c'est très contraignant, très chronophage. Donc on lui met le duo et en fait tout le monde a cru qu'on avait proposé à Sébastien Demorand et Nicolas. Je confonds les frères, qu'on avait proposé à Nicolas Demorand et donc le duo s'était formé comme ça. En fait c'est à elle que ça a été proposé et dans leur façon d'interagir le matin, on pense que c'est Nicolas Demorand qui est là en lead. C'est assez terrible comment la façon dont vous le décrivez dans votre ouvrage. Moi, je voulais revenir sur, on parlait des temps importants dans la vie d'une femme. Il y a eu deux temps importants dans la vie des femmes dans le monde. C'est d'abord MeToo, vous avez réalisé vos recherches et rédigé votre livre après le début du mouvement MeToo. Est-ce que cette prise de parole féminine exceptionnelle a été entendue? Alors là, je me sors un peu du monde radiophonique, mais est-ce que vous, en tant que chercheuse, en tant que... membre intéressé par le féminisme, je ne sais pas si vous vous qualifiez de féministe, mais en tout cas, en tant que chercheuse, vous trouvez qu'on a entendu cette parole ou pas ?
En fait, ce qui a été assez intéressant, si je reste du côté professionnel, c'est-à-dire en tant que chercheuse, c'est que MeToo a permis en fait de relancer des études et des recherches et mettre en avant ce que les chercheuses féministes et non féministes, mais qui travaillent sur les violences sexistes et sexuelles, montraient depuis malheureusement beaucoup trop longtemps. Sans être entendu, c'est-à-dire les problématiques de violence qui existent dans notre société, que ce soit les questions de harcèlement de rue, à des choses beaucoup plus graves. Et ça, en fait, c'était quelque chose qui était un peu genre c'est passé. On n'écoute pas, on ne se rend pas compte. Et il y a eu MeToo, plus le travail à l'époque, je crois que c'est en 2017, de Titiou Lecoq qui avait compté toutes les femmes qui mouraient dans la presse quotidienne régionale avant nous toutes, en fait. Elle avait fait un site web qui s'appelait Déjà Morte, qui était sur les féminicides, mais on n'utilisait pas ce mot encore. Donc en gros, il y a eu un peu une espèce de moment où il y a eu un travail journalistique important, un autre travail journalistique important qui a lancé le moment MeToo, qui était les articles de presse américains de Ronan Farrow et d'un duo de journalistes. Et finalement, on a eu aussi, nous toutes, donc on a eu un moment où enfin, il y a eu une écoute. C'est-à-dire que les propos étaient dits, ça faisait des années que ce qui était dénoncé par MeToo était analysé, étudié, dénoncé, mais il n'y avait pas eu d'écoute. Tandis que là, ça a créé, en fait, cette écoute-là.
Et de la même façon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé après le Covid pour les voix des femmes en radio ?
Ça a été un peu tragique, un peu, mais dans tous les médias. Là, pour le coup, ça a été très général à la radio, télé et presse écrite. C'est que pendant le Covid... Alors, quand le Covid est devenu cette espèce de moment exceptionnel où il a fallu beaucoup d'experts, beaucoup de temps de radio, beaucoup de temps médiatique, les femmes ont disparu. Et il y a eu beaucoup moins de femmes qui ont été écoutées. C'est-à-dire que si on interviewait un médecin, on interviewait un médecin homme. Si on interrogeait plus facilement un infirmier qu'une infirmière, enfin, on a eu les femmes qui étaient interviewées étaient, par exemple, les aidantes, la famille. Et quand le Covid s'est un peu entré dans de l'habitude, c'est-à-dire que ben, finalement, c'était plus aussi exceptionnel que ça, on a vu une réapparition de femmes. Mais en temps de Covid, les femmes ont disparu complètement des médias, ce qui montre aussi à quel point les avancées demeurent malgré tout fragiles.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans De Boule Vanille. On écoute Sémaphore de Requin Chagrin.
Mais ne t'en
Sémaphore de requin chagrin dans Debout le Vanille sur Canal B. Alors, on a vu un système, somme toute bien connu, hein, basé sur le modèle patriarcal, très ancré sur la domination d'un genre par un autre, qui lui va être discriminé, ridiculisé, que l'on considère même comme inapte ou qu'on sous-estime. Mais alors, il est des domaines dans lesquels les femmes sont totalement exclues, ou alors elles sont des objets sexualisés, mais attention, hétéro et cisgenre. Vous parlez de conservatisme, car là, on tombe en fait dans les clichés hétéronormés persistants et archaïques. Je parle de deux émissions que vous avez écoutées, After Foot et Radio Libre. Ce sont de vrais boys clubs, de l'entre-soi masculin, hétéro, cis, plutôt blanc. Et le chapitre qui suit, c'est sur les femmes trans. Et alors là, ça n'existe même pas à la radio. Est-ce qu'on peut dire deux mots d'After Foot, donc un podcast sur le foot, et de Radio Libre?
Alors, After Foot, c'est l'émission radio phare de RMC, mais qui est le podcast, l'un des podcasts les plus téléchargés en France. Donc, c'est le podcast le plus téléchargé en France. Et Radio Libre, donc, c'est l'émission phare de Skyrock. Radio Libre a une seule femme chroniqueuse et parle majoritairement de sexualité et de beaucoup d'éléments. Et c'était une émission assez importante à la fin des années 90, à l'époque d'Okay Fool, parce que c'était la seule émission qui était censée parler de sexualité aux adolescents. Mais on voit que on est près de bientôt 30 ans plus tard, et c'est toujours les mêmes personnes qui sont alors en tête, donc des hommes cinquantenaires, une femme presque cinquantenaire aussi, qui parlent toujours de sexualité aux adolescents. Et After Foot, on est, c'est des gens qui parlent de foot, et avec des invités à peu près nouveaux tout le temps. Et After Foot, on n'entend jamais les femmes, il y a très très peu de femmes invitées. Donc, pourtant, de plus en plus, il y a eu des efforts faits sur les femmes journalistes sportives, mais pas dans cette émission-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qu'on parle pas d'elles. Et souvent, on en parle plutôt comme des objets sexuels. Même la seule femme de Radio Libre va être très mise en scène dans des comportements, des façons d'être. On va toujours parler de son corps, de ses pratiques sexuelles. Elle a assez peu de choses à dire. Alors que c'était quelqu'un qui était arrivé il y a 20 ans sur le plateau en disant « Les femmes ont le droit d'avoir une sexualité », ce qui était quand même un discours qui était... pas novateur, mais assez bienvenu, on va dire, le fait que une femme peut avoir plusieurs partenaires sexuels, une femme a le droit de juste avoir envie de jouir, etc. Mais sauf que maintenant, avec le temps, ce discours est un peu passé, et surtout, elle est beaucoup utilisée sur ses pratiques sexuelles à elle. Et dans After Foot, les femmes, quand on en parle, c'est majoritairement pour se moquer des compagnes, des joueurs, quand on en parle.
Ouais, c'est...
Vraiment... Et pour le coup, MeToo dans After Foot avait été... plutôt perçu comme une façon de remettre en cause certains joueurs en disant « Oh là là, tel ou tel joueur a été accusé de viol, le pauvre, c'était pour lui. »
Ouais, c'est
dans l'émission pour le coup.
C'est archaïque et c'est des choses qu'on entend par ailleurs hors radio. Déborah, pour conclure, ma dernière question, est-ce que l'arrivée de Florence Paracuellos à la tête de la première matinale de France, celle de France Inter, même en tant que remplaçante de Nicolas Demorand en arrêt maladie, c'est un remplacement qui dure, peut-être considéré comme une petite avancée, un début de changement de paradigme? Ils auraient pu choisir un homme pour le remplacer, ils ont choisi Florence Paracuellos.
C'est même un changement plutôt bienvenu, puisque le début de l'année avait commencé avec le remplacement de Salamé par Duhamel. Donc, en gros, on revenait en arrière en mettant deux hommes à l'antenne, plutôt qu'avoir ce diptyque homme-femme. Et donc, le fait est que Paracuellos a été choisi pour remplacer Domorant, qui est donc, comme vous l'avez dit, en arrêt maladie. Et c'était assez amusant, entre guillemets, parce que finalement, on a dû attendre d'avoir besoin de quelqu'un dans l'urgence, qui en plus était... Florence Paracuellos avait vraiment dit qu'elle ne souhaitait pas forcément du tout retravailler en matinale. C'était l'ancienne voix. Elle était connue, elle avait présenté le journal de la matinale de France Inter, parce qu'elle était mère, justement, et qu'elle avait envie de consacrer plus de temps ailleurs. Et donc, le fait est qu'elle a accepté et que ça dure et qu'en fait, ça marche. La matinale demeure très écoutée. C'est plutôt une voix qui est entendue. Et franchement, j'ai très hâte de voir la grille de rentrée de France Inter. On voit qu'il y a eu des efforts de fait sur les week-ends, déjà, où on a aussi un duo homme-femme. À quand Florence Paracuelos seule à la tête de France Inter, ça j'aimerais bien savoir.
Eh bien, on le saura peut-être cet été quand la grille des programmes des radios sera annoncée. Déborah Gay, merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Radio non féminin, monde masculin. C'est aux presses universitaires du Midi dans la collection En tout genre. Déborah, vous étiez en direct de Toulouse. Je vous remercie pour cette interview.
Merci à vous pour votre invitation.
En avril dernier, Canal B avait installé un plateau pour un direct au premier festival des médias indépendants, lors duquel j'avais invité deux voix féminines emblématiques de Canal B, Anne-Yvonne Rogue aka Nini et Stéphanie Thomas aka Stiff, pour parler de la place des femmes dans les radios associatives. On écoute ou on réécoute cette interview.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires.
Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombie.
Et si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile.
Eh ben, vous allez en voir des femmes et vous en entendez à l'antenne de Canal B. On est quatre autour du plateau, quatre femmes. On va parler des filles à la radio et notamment dans les radios associatives. Et là, le bas blesse. Je vous l'ai dit, à Canal B, on donne la parole aux concernés. Et j'ai donc la joie, le plaisir immense d'accueillir celles qui ont ouvert la voie aux voix des filles à Canal B. Stiff et Nini, Stéphanie Thomas et Annie Vogue. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci pour ce lancement magnifique.
Et merci pour l'invitation.
Et pour l'invitation.
Voilà.
Alors le lancement, il n'est pas anodin. On a parlé en préparant l'émission d'une certaine Rose Lamy qu'on aime bien, ascendant beauf, et qui parle de Michel Sardou notamment. Ça m'a donné comme ça une petite idée. Désolée si vous l'avez dans la tête pendant trois jours. C'est pas grave. Alors hier, j'ai interviewé dans les héroïnes, auto-promo, j'ai interviewé Déborah Gay, une enseignante chercheuse autrice de Radio non féminin, monde masculin, ouvrage dans lequel elle démontre que la radio est un média et le média le plus inégalitaire envers les femmes, que c'est un miroir de notre société patriarcale. Vous, Stiff, Nini, quand vous arrivez à la radio dans les années 90, pour vous faire une place, il a fallu copier les codes masculins, reproduire des attitudes de mec, c'est ça?
Alors moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors moi, je représente la phase paléolithique de l'histoire de Canal B, puisque au tout début des années 90, au mi-temps, comme on dit, hein, comme disent les vieux, hein, au mi-temps des années 90, j'ai eu l'audace avec une amie de me dire si on faisait une émission à Canal B, bon, pourquoi pas. Et donc, effectivement, on a sollicité le directeur d'antenne pour pouvoir intégrer la radio. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que on voyait défiler de nouveaux animateurs tous les jours. Il y avait une nouvelle émission qui s'installait sur les grilles. Et nous, il a fallu qu'on fasse une bonne dizaine de maquettes pour pouvoir donc être accepté.
Est-ce que cette amie, c'était Steve?
Non, c'était Caro.
Caro, ben ouais. Voilà, on Caro et Nini qui font voilà. 10 pilotes avant de pouvoir prendre l'antenne.
Exactement, on a fait 10 pilotes, alors c'était des pilotes en plus qu'on vivait de façon hyper anxiogène, puisque derrière la vitre, alors que Caroline et moi, on faisait de notre mieux pour faire cette proposition de maquette, on avait chef debout, les mains dans les poches, qui nous écoutait attentivement et puis qui pouvait arrêter la maquette ou qui pouvait, à la sortie d'une heure de maquette, nous débriefer de façon un petit peu sévère.
Chef, c'est Yvan Penverne qui était à la création de Canal B en 84. Steve, tu dirais la même chose quand tu es arrivé à Canal B il y a quelques mois, années, voilà.
Alors moi, je suis arrivée pas au mi-temps, mais au temps plein à Canal B, un tout petit peu après Nini, et c'est pas tout à fait la même histoire, mais à peu près les mêmes conséquences. À l'époque, il y avait très peu de voix féminines à Canal B, à part Nini et Caro qui avait eu enfin un créneau d'émission et donc qu'on entendait assez régulièrement. Et donc, il y avait deux jeunes garçons à l'époque qui voulaient absolument faire de la radio et Chef leur disait « Oh non, c'est chiant. Tiens, mais si vous aviez une voix féminine, ça pourrait être vachement mieux. » Et donc, ces deux garçons-là ont cherché une femme, et c'est comme ça que je suis arrivée. Je ne les connaissais pas. On s'est rencontrés en salle des profs pour la petite histoire avec un des deux animateurs de ce qui est devenu l'émission Frisson après. Et donc, ils ont fait une maquette avec moi, qui du coup n'avait jamais fait de radio, mais était assez fan de musique, donc j'étais très contente de pouvoir y aller. Et au final, le fait que je sois une femme et ma voix a fait que l'émission a été prise sur l'antenne de Canal B. Mais pas forcément pour les bonnes raisons non plus, c'est-à-dire que c'était pas du tout parce que c'était intéressant ce que j'avais à dire. Non, c'était vraiment parce que j'étais un vrai faire-valoir féminin,
un
et que
quota,
c'était
en
bien,
fait.
Un vrai quota.
Ouais, c'est ça,
voilà,
un quota, c'est ça, exactement. Une voix féminine pour alterner, pour apporter de la douceur, parce que on se l'est dit aussi en préparant l'émission, et c'est ce que j'ai évoqué avec Déborah Gay sur les voix des femmes. Dans son livre, elle dit que certaines femmes de radio travaillent, alors c'est dès les écoles de journalisme, leur voix pour qu'elle soit plus grave.
Mais oui.
Vous l'avez fait, ça?
Non, mais alors moi, j'avais le sentiment, parce que j'ai beaucoup aimé aller dans les bistrots, donc animatrice de Canal B qui va en bistrot, notamment au Tonton Flingueur, j'avais le sentiment qu'on me débriefait en continu. On me débriefait, Caroline et moi, hein, c'est-à-dire que j'avais constamment, un peu comme les femmes peuvent avoir très facilement des remarques sur leur corps, où on vient les interroger sur leur posture, leur façon d'être, et ben moi, sur ma voix ou sur celle de Caroline, on pouvait nous dire qu'elle était comme ci, qu'elle était comme ça, qu'elle n'était pas satisfaisante, qu'elle était trop, et il y avait toujours quelque chose qui nous était ramené dans des discussions très informel, au bistrot. Et je ne suis pas persuadée que les animateurs hommes, alors j'en ai pas la certitude, hein, que les animateurs hommes avaient ce retour permanent sur leur voix.
Non, sans doute pas. Alors, moi, j'ai posé la question à Déborah Guest si elle avait un exemple. Et elle me dit, en fait, les voix d'hommes qui vont être critiquées, c'est les voix d'hommes féminines. Les hommes qui parlent de façon trop aiguë, on va leur dire maintenant, mais en fait, il faudrait que tu aies une.
Ça
voix.
Y est, ça me revient, Valérie Pécresse. J'avais hyper envie de citer
on était
Valérie
bien,
Pécresse.
Mini,
ouais,
on
mais
était
Valérie
pas
Pécresse.
Tu as fait un pari avec quelqu'un.
Mais si,
tu viens de plomber l'ambiance.
Mais non, vous allez voir, Valérie Pécresse, elle a fait des stages de communication en long, en large et en travers. À mon avis, elle a craqué son CPF. Pour
l'argent de la région Île-de-France, surtout.
Exactement, pour pouvoir baisser le ton de sa voix. Vous vous souvenez que c'était ce qui était reproché à, comment elle s'appelle l'autre là,
Sandrine Rousseau.
Non, Ségolène. Et en fait, la question
Marie
de la...
Ségolène Royal, ouais.
Voilà, cette question de la voix, hein, est un vrai sujet. Quand tu évoquais le fait qu'on demande aux femmes, eh bien, d'avoir des voix plus basses, c'est ce qui est arrivé à cette pauvre Valérie Pécresse que je plains infiniment.
Bah oui, bien sûr. Écoute, on va la laisser là où elle est, dans sa petite tour d'ivoire de la région Île-de-France.
De Neuilly.
Je sais pas où elle habite.
Ouais,
j'ai pas envie de savoir. Steve, tu me disais que la musique indé des années 90, c'était l'apanage des mecs, ouais. En mode boys club. Comment on fait entendre sa voix de femme fin des années 90 dans ce milieu ?
Et ben justement, c'est très compliqué parce qu'effectivement, alors moi j'étais une fan de musique indie, indie rock, indie pop, etc., etc. Et effectivement, en face de moi, je n'avais que des hommes. Tous les médias relatifs à ces musiques-là étaient des médias à l'époque écrits par des hommes pour des hommes. Je pense aux Inrecuptibles, je pense à Magic. Il y avait très peu de copines à moi qui lisaient ça. En fait, c'était vraiment les hommes à côté. Et donc moi, quand j'arrivais à la radio, donc avec les deux jeunes hommes avec qui j'étais et que j'essayais de passer des morceaux de musique, il y avait quand même assez systématiquement un truc du genre « Oh, encore une musique de pleureuse. Oh, mais c'est chiant ce que tu nous mets là. Oh, encore de la folk. Tu veux pas changer de registre un peu ?» Et eux, quand ils mettaient leur musique, bah, tout de suite, c'était génial, c'était fun, c'était vraiment ça qu'il fallait écouter. Puis il y avait vraiment un truc beaucoup plus organique, plus chouette, quoi. Et j'ai eu vachement de mal, ça a pris des années, je pense vraiment, à réussir à, alors non pas à imposer la musique que j'aimais, mais en tout cas à réussir à en parler sans qu'elle soit débinée systématiquement par les deux personnes avec qui j'étais, qui par ailleurs sont des amis et avec qui on s'entend très bien. Mais ça a été très très compliqué. Et je pense que c'est vraiment lié à ce truc de les nanas sont pas hyper capables de programmer ou de jauger de la musique parce qu'en fait elles réfléchissent avec leur cœur et pas avec leur tête. Alors que nous les mecs, on est quand même hyper capables de savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est de la merde et ça c'est pas de la merde. Et donc c'est pour ça que quand on a discuté de l'émission, je te parlais de Rose Lamy, le bouquin Ascendant Beauf, parce que t'as aussi beaucoup de classisme là-dedans, voire d'élitisme, hein. C'était vraiment le truc de dire si t'écoutes pas de la musique indie rock, t'es vraiment un gros naze, laisse tomber. Alors passer un mash-up comme celui que t'as passé en ouverture d'émission, si j'avais fait ça à l'époque dans Frisson, mais je me serais fait démonter très clairement et par les collègues.
Qui te dit que je vais pas me faire démonter mais lundi matin au bureau?
Mais quand même, probablement pas. Je pense pas.
On a vachement
Il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, je trouve, aujourd'hui et à Canal B notamment, parce que c'est une radio que j'écoute beaucoup, toujours. Mais quand même, on est plus à cet endroit de ça c'est cool et ça c'est naze, et si t'écoutes ça, t'es vraiment un gros naze, quoi.
Tu me fais une transition, puisque vous l'avez dit aussi, il y avait quand même, malgré tout, une grande liberté à Canal B, liberté de ton, liberté de passages musicaux. Ça vous a permis de vous sentir à l'aise au bout d'un moment et de trouver votre place, que vous auriez peut-être pas trouvé dans un média plus mainstream, une radio plus classique. Nini, je te vois réfléchir. Est-ce que la liberté de ton, la liberté tout court dans ce média libre et indépendant qu'est Canal B, t'a permis de trouver ta place plus facilement?
Oui. Alors, une fois passée cette période où on avait vraiment le sentiment d'être sous le regard ou sous l'oreille de chef et puis de n'importe quel auditeur de Canal B, où on avait vraiment l'impression d'être extrêmement scruté. Alors il faut pas oublier que moi, quand j'ai commencé à Canal B, il n'y avait que des émissions musicales avec des hommes. Donc ton émission de hardcore, ton émission de machin, ton émission de bidule, tous les styles musicaux étaient représentés. Il y avait exclusivement des hommes et chacun arrivant avec son courant musical préféré. Et nous, avec Caro, on arrivait avec une émission de blabla, hein, une émission où on avait envie de raconter des choses, on parlait surtout de culture, d'activités culturelles locales, on s'est mis beaucoup à parler de politique, on a commencé, on a aussi fait des émissions en public, hein, sur des questions politiques. Je me souviens d'une émission sur les 35 heures, mais qu'est-ce qui nous a pris? Enfin bref, on avait des envies comme ça, assez improbables, et justement on avait une espèce de liberté, on se dit tiens, on va faire une émission sur les 35 heures, parce que les 35 heures c'est génial. Et puis on trouve un bar, et puis Yvan vient nous faire la technique, et puis on se retrouve à faire une émission où on invite des économistes locaux, des sociologues locaux, et on se met à aborder un sujet qu'on ne maîtrise absolument pas, mais avec heureusement des invités qui ont tout compris. Et on arrivait à... Il y a eu un moment donné où en fait il y avait... Mais peut-être par notre masculinisme... Hein, c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est surtout qu'on on s'est battu comme des lionnes pour avoir notre place, on a obtenu notre crédibilité. Partant de là, on était suivis dans toutes les possibilités. On pouvait avoir des idées farfelues. On nous disait « Ok, on y va. Puis c'est, alors, si vous voulez, on y va. » Mais je ne suis pas persuadée qu'on ait obtenu cette place par des questions... Enfin, on les a obtenues par des questions de genre, mais...
En étant sur des codes masculins.
Sur des codes masculins,
complètement. Voilà, en allant au bistrot boire des coups, voilà. Et en réfléchissant à la musique que vous alliez passer et à la façon de parler.
Ouais, tout
c'est,
à fait.
C'est la, ouais. C'est ça, la façon de parler. Steve, au niveau de la liberté laissée à Canal B, ton sentiment là-dessus, et puis après, pour finir, peut-être sur l'évolution, je l'ai dit, vous avez ouvert la voie aux voix des femmes à Canal B. L'évolution ces dernières années là-dessus.
Sur la liberté, ça a été aussi une évolution. En tout cas, moi, ma liberté à la radio, elle a évolué au fur et à mesure que j'ai évolué à Canal B et plus tard dans l'affaire Arok. Mais je regarde Nini parce que Nini nous a rejoint dans l'émission Frisson pendant quelques années et ça a été vraiment des moments de grande liberté où là, pour le coup, on était plus que légitime, on posait vraiment le cadre et finalement, on pouvait faire ce qu'on voulait, ça marchait quoi. Donc on est arrivé avec des éditos, des invités, des extérieurs. On a fait une multitude de choses complètement folles qui paraissent même irréalistes aujourd'hui. Je me souviens de, c'est anecdotique, mais on avait décidé, là c'était avec une autre femme de Canal B qui s'appelle Marina Le Guenec, d'aller faire des lectures de recettes de cuisine façon érotique sur un festival rennais, juste pour voir si ça allait prendre ou pas. Et en fait, ça prenait à mort. Donc, on s'est beaucoup amusé avec ça, de voir devant nous des gens très, très rouges écouter nos recettes d'aubergines et de courgettes. Voilà. Bon, on a joué beaucoup sur les codes. On les a renversés. Et je trouve que, donc, je te parlais de progression, c'est que ça évolue de plus en plus et que la liberté aujourd'hui que j'entends, moi, dans l'antenne de Canal B, elle est non seulement lié à la diversité des genres qu'on peut entendre, à la diversité des sujets qui sont abordés aujourd'hui par les animatrices et les animateurs de Canal B, et à la diversité des esthétiques qui sont passées. Quand je parle de la diversité des sujets, c'est que tu disais à l'époque, Canal B c'était une radio musicale, donc c'était 90% de la musique, et c'était super cool. Et puis, deux rares ovnis comme celui de Nini et Caro, que moi j'adorais parce que c'est justement ce qui me donnait envie en fait d'aller. C'était un peu des modèles, vraiment quoi. Et aujourd'hui, en fait, des modèles, on peut en trouver. Et je pense que des jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans la radio aujourd'hui, en écoutant Canal B, peuvent très vite en fait se dire « Ah, c'est possible de parler de ça, c'est possible de parler de ça, c'est possible de pas parler que de musique, mais de parler aussi de politique, de parler d'ouverture, de parler de plein de choses. » Et donc, je pense que la liberté d'aujourd'hui, elle est bien plus grande encore que celle qu'on avait à l'époque. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup, Steve, merci et Nini.
De Boulevani, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi prochain pour ma part. D'ici là, portez-vous bien.
Je pense que je prends De Boulevani.
De Boulevani.
Je sais pas.